Alors, je crois que Ben Hack était venu déjà à l'UTC, hein, du temps de mon prédécesseur Ned Lawrence. Pour les étudiants, c'est évidemment c'est très loin dans le temps. Vous n'étiez même pas bachelier. Pour vous, il faut souligner que Huvel est quand même à l'origine, c'est un économiste extrêmement ouvert, à l'origine d'un déplacement de l'économie de la connaissance sur la learning economy, et donc une transformation des thématiques, y compris dans le mainstream, un déplacement sur l'apprentissage, l'économie apprenante. On verra que le rapport de François Taddeï à l'OCDE qui vient de paraître s'inscrit au fond dans cette tendance. Mais je voulais vraiment te remercier énormément d'être venu. Je sais que tu es ici en France et que tu enseignes. Quand tu n'enseignes pas ici, tu enseignes en Chine. Mais c'est vraiment un grand plaisir pour nous de t'avoir. Et vous avez beaucoup de chance t'entendre. Voilà.
Merci beaucoup. C'est vrai que j'ai une expérience assez mixte. Je suis auteur de seule œuvre en économie marxiste en suédois avec deux co-auteurs, et je suis aussi ancien directeur de l'OCDE. Comme vous savez, c'est une organisation très pro-capitaliste. Donc j'ai beaucoup des expériences assez mixtes. J'ai travaillé 3 années à le plus bien connu l'université en Chine, il s'appelle Tsinghua. Et si on prend le comité central de Chine, presque la majorité sont des étudiants de cette université. Et j'ai essayé d'expliquer pour les étudiants qu'il faut être innovatif et créatrice. Et en Chine, c'est que controversiel qu'en France. Si on compare un peu avec la discours qu'on a eu, je regarde l'innovation pas seulement comme un problème. Je le regarde aussi comme quelque chose qui est absolument nécessaire pour trouver des solutions aux très sérieux problèmes que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire, j'ai une approche critique, mais c'est une critique constructrice, je voudrais dire, à un système qui marche maintenant, aux 6 relations. J'ai fait recherche sur innovation depuis très très longtemps, je crois presque 40 années, hein. C'est presque trop. Mais j'ai maintenant I'm going to speak in English. Will you understand? How many will not understand a word if I speak English? I shouldn't put out my arm here. Everybody will understand somewhat? You think?
Well, no, they don't understand the English, so how can they put up their hands?
They don't understand the question.
Okay, you're right. Il est professeur de logique, lui. Hein? Oui, oui. C'est tout à fait clair. Hein? Il faut être. Anyhow, I think. Because I have reached. After doing research for so many years, some rather simple conclusions. So even if I speak a language which is difficult for you, what I'm going to tell you is rather simple. And it's about what drives innovation. And you know Schumpeter, huh? You know Schumpeter, Joseph? Schumpeter, you heard about him? No, because he was mentioned several times in the last speech. But he's the kind of father of the economics of innovation. He did his work around 1920, 30, etc. What he's referring to is he says that innovation are new combinations. And what is interesting is that when you go further back to Adam Smith, did you hear about him? You did, good. He already has this idea. When he refers to how science contributes to innovation, he says that many improvements, he refers to innovation here, have been made by those who are called philosophers or men of speculation. They are often capable of combining together the powers of the most distant and dissimilar objects. And I think it's very important here to note that he used the idea that different elements of knowledge may be more or less distant from each other. I mean, some things, some types of knowledge are very close, they are in the same discipline, they have the same character, but they also some which are very, very far from each other. And the further the elements you combine, the more radical will be the innovation. Adam Smith has this idea that what really drives economic progress is to develop the division of labor. The more people specialize, the more efficient will be the economy and the wealth of nations. The way countries become rich is become by developing the division of labor more and more, so people get more and more specialized. And he also applies this to the system of science. He says that in the progress of society, philosophy or speculation becomes, like every other employment, subdivided into a great number of different branches, each of which affords occupation to a peculiar tribe or class of philosophers. I like this word of tribe. Je crois que c'est une tribu en français, hein? Because it indicates, I mean, you know, we have different tribes. I belong to the tribe of economists, and the other speaker belong to the tribe of philosophers or sociologists, and we are a little like Indian tribes. We fight with each other, and we don't really understand each other very well. So I like this idea of saying that they are not only all different professions, really formation almost comme des tribus, huh? You understand? So what I have reached of conclusion is that we can develop a rather general theory of innovation by making Adam Smith more dynamic. And the basic idea is that innovations, they are new combinations, they combine diverse or distant elements of knowledge, and innovation thrives when people with different backgrounds meet and interact. If we put people in the same room who are exactly the same, they have the same training, they have the same gender, they are male or female, they are the same age, you will not create a lot of innovation, because you will basically confirm each other about the things you already know. If you want to combine distant objects or distant types of knowledge which are far away from each other, you need people with very different backgrounds. You understand? Innovation drives and shapes the division of labor. If we look at innovation, it brings into the economy new products and new processes. And it means that we get new activities and we get even more specialization than before. And therefore you can say that the evolution of division of labor contributes to diversity, and it opens up for new interfaces of interaction. So all in all, we would say, this is a very nice system. You have diversity, which drives innovation, which drives diversity. But there is a problem here, which Adam Smith does not mention, and this is, but he does it indirectly by using the word tribe or tribu. He forgets to tell us that the formation of those tribes established communication problems. And of course, we are confronting that now. I'm sure you don't understand what I'm saying as philosopher, sociologist, and so on. We have different language, we have different norms, we have different experiences, and we make interpretation of things differently. There are barriers between us. There are distance between us. And sometimes the barriers are so high and distance so long, so we don't really, we cannot really combine our different elements of knowledge in a way to promote innovation. So the single normative idea here is that if we can reduce the distance between very different things, or if we can reduce the barriers between very distant types of people, we will promote innovation. That's a very simple idea. And you can apply it in many different dimensions between different scientific disciplines. If biologists and physicists can work well, or can work well together in an academic system, you will have much more invention in terms of developing new ideas which could force. If it's engineers, if information technology experts work well with mechanical engineers, you will have a lot of innovation. But it's also a question of people with different culture. If we have a society where you have a good interaction with people with different cultural background, we will have more innovation. And if we have a system where the bosses at the top of the organization and the ordinary workers communicate well together, this social distance is not too long. We have more innovation. So I would say in many different respects, innovation is promoted when you reduce the distance between distant elements of actors or different actors with different types of knowledge. That's my very simple conclusion after 40 years of work. Not much. Perhaps I could have done something else. 40 years, you know. Therefore, I would say if you want to promote innovation, you should contribute to specialization, but you should prepare specialists for interaction with other specialists. If you're engineers, you should get used to work with sociologists and with economists and also with technicians and workers at other level than you share. So it should be part of the education and training system that people are prepared to interact with people who are different from themselves. I think this is very important. You should also train a new tribe, I call them intermediators, people who cross disciplines and professions. We need more of these kind of people who can speak several languages, who can link one tribe to another tribe. Do you understand? That's very important. So we should think about how we develop these kind of people. And we should facilitate interaction between what you call men of speculation, I refer now to Adam Smith's language, and men of action. I think one of the problems with the French system is that there is a rather big distance between speculation and action, more than in most other national cultures. I don't know why. I think you have such respect for logical, spiritual thinking that how you link it and actually get it directly involved in relation to practical action, there is some resistance there. And I think to reduce that is important. It means that people who study academic subjects probably should spend part of that time outside the university walls. It should probably be part of the education that you should always apply what you learn at university or schools, etc., in some context outside the university. I think that would be a good idea to have more of these things. And I also think to reduce the social distance between elite and the rest. You have in France, you have grande école, you have très grande école, grander than everywhere else in the world. And these people, I hear by rumor that they cannot speak to ordinary people. They don't understand what they are saying and why they're saying it and so on, and they can only speak with each other. And this is no good. This is no good for the system in terms of promoting creativity in innovation, because you really need, for these processes to be successful, you need interaction, communication, and collaboration between these. I'm going to do something now, which is a little complicated. Don't get nervous. I'm going to try to show you something here. What did I see? Just a second. I do this, and then I do this. I have done, it was mentioned before that the first time I was here, I was invited by Edward Lawrence, who was a professor here in economics, socioeconomics, and we have done a lot of work together. He's a fantastic guy working with numbers, and we have a very good interaction there. And what we have been doing is to try to look at the frequency of creative work in different parts of Europe. And what we did, we took a survey, which is questions which are posed to ordinary people, about 1,500 each country in Europe, 29 countries, and we focused trying to characterize work in different categories, where we try to find what is the proportion of people in different countries which are doing creative work as compared to more Taylorist. You understand Taylorist? You know Taylorist? Taylorist? No? This is where you have very little liberty, you just do this all the time. This is Taylorist. And you try to do it as quickly as possible. You're not even allowed to change to do this. This is Taylorist. So it's not very creative. But anyhow, we define that as having to do with solving problems at work, learning new things at work, undertaking complex tasks. You can use your own ideas in work, and you are able to choose or change your work methods on your own. The boss will not tell you, you can do it yourself. And you are able to choose or change the order of what you do. So you are quite, you have some freedom. And we developed, on the basis of such questions, three clusters with more or less creative, in order to see how they were distributed in different European countries. And we got one category we called creative work, one where we had routine problem solvers. It's an intermediate medium category where you have some problem solving and learning, but very little room for applied own ideas and own initiative. And finally, we had the Taylorized workers who do this. Huh? Okay, and then we saw how this is distributed. Can you read these numbers up there? Oh, you have good eyes. Congratulations. Oh, you got glasses. Sorry. But you can see here we have enormous differences between different parts of Europe. I have taken the extremes here. I took the three Nordic countries, which, where you see that according to our clustering, more than two-thirds of those active in the labor force have what we define as creative work, and they are only about 10% left of tableist work. And when you look at the other end in Southern Europe, you will find that there might be about 30-40% creative work, and still about the same amount of tailorized work. This is not to tell you that the Nordic countries are much better than the others. The Nordic countries are more highly developed, they are richer countries, they have and with all probability we have a movement in the south and the east of Europe getting more and more creative work. So you can say, in a sense, economic development, normally you think about that as GNP per capita or something like that, but economic development is also a transformation of working life. It's a transformation of working life where you go from rather simple and tailorist works towards more complex tasks. And this is why creativity is becoming so important in the education system, because those countries where the proportion today of creative work is rather modest, they are moving into that direction, and therefore you need people who can make decisions, who can learn at the workplace, etc. And this gives, I think, a somewhat different perspective than the last talk, because you can say here, in a sense, ordinary workers, because when you get 80%, there are many ordinary workers who are actually moving from doing this to doing much more complicated things, you see? And actually, when we have the opportunity to ask, there are questions here in the survey, if they like their work or not. And I can tell you, people doing tailorist work do not like it. People doing creative work like it much more. I mean, they are, of course, they are not completely happy, etc., but it's obviously, in that sense, a movement from something which is extremely boring and stressful towards something which is a little less boring and less stressful. So this gives a slightly more optimistic picture than the one you got in the last lecture. You can say, and one thing here, I don't know if I... We can show that there is a strong correlation between creative work and innovation. Here we use patents as per capita, as a kind of measurement. If we use the community innovation survey, where you ask firms in different countries, we also find that the frequency of innovation, new to the market innovation, the frequency of firms who do new to the market innovation in a country is correlated with the amount of creative work. So you can say that there is a need to see the promotion towards innovation as also transforming working life. And of course it goes both ways. If you have more innovation, it also means you need to have people to participate more actively in change. And you, if you have people who participate more actively in change, you will get more innovation. It goes both ways. We also did some trying to find out what is the background for creative work. What can explain it? And we did a very complex, or that Lawrence made a very complex analysis, where he took all the individual characteristics, the gender, if you are a woman or a man, the age, the experience, the professional education you had, the formal position you had, and then you could explain quite a lot. But there were still differences between the countries left. There was still something left which needed to be explained. And there we try to look at two types of variables. One has to do with the education system, and the other one has to do with the labor market. And I would mainly refer to the results on the education system. We found that the frequency of creative work is higher in countries with open and democratic education systems, and I would add here systems which give equal weight to theoretical and practical training. We found that equal access to lifelong learning, which means did workers have equal access to lifelong learning as managers? If they had, that was a positive factor, strengthening. And this indicates what I said before, that we need systems where people of speculation work with people of practice, that you link theory to action. And the other result was that we also found that in systems where you gave emphasis to upgrading practical skills, almost equally to theoretical skills, you also had more creative work. And I think this indicates some ideas for reform of education, national education system. And here you have the actual multi-level regression outcome. You can see at the very end the thing. Okay. That was kind of long parenthesis. Huh? So now I have to, I guess, close this one down, and I will go back to my main line. Where is the small thing? Okay. So what I'm going to speak about now, I'm talking about most innovations are outcomes of combinations of diverse elements of knowledge, and such outcomes reflect interaction among agents with different insights and skills. And interaction is social, and it reflects formal and informal institutions. I mean, it means that even if I'm an economist, I would never argue that all interaction is based on market relationship or trading or something. When it comes to understand innovation and learning, economists have to recognize that interaction needed is social. The way you learn is looking into each other's eyes, shaking hands, is speaking, talking, watching, all kinds of social relationships, and trying to reduce that to some kind of simplistic information exchange is not realistic. Do you understand? And therefore, I would say that innovation policy has a lot to do with what kind of the design of institutions and also, you might say, shaping what you call social capital. How many of you have heard about social capital?
Nobody.
Are you completely inactive or don't you know anything?
No, it's an oxymoron.
Capital social.
Capitalism, you're a Marxist, between socialism and between social and capital, it's like
but
a bribe.
Georgia, it's a quotation.
It doesn't mean anything.
No, of course it doesn't mean it. I asked if they have heard about it. I didn't ask if it meant something.
Oh, yes.
But I'm not sure the professor in logic is getting my question. But how many of you have heard about
capital? Social capital de Bourdieu. Ça vous dit rien?
Non.
Si. La question est-ce que vous en avez entendu parler? Alors levez le. Est-ce qu'il faut vous installer un cabinet de...
I have, so I put up my arm. Anybody else? Did you hear about it?
Yes.
Yeah, then you put it up your arm.
No, but I'm not included in it.
Yes, yes, everybody has to do it. Also professors. Okay, not too many. Okay.
Hey, Michael, là, tu dois lever la main.
Okay. Anyhow, capital social, social capital is something to do... I agree, it's a very vague term, and can be very critical, but in principle it has something to do with how people relate to each other in a society. And it's not something you can measure like ordinary capital and say it's big or small, it's different. It's different in different systems. Anyhow, we're going to speak more about that. So, if you take standard economics, which is what you read in textbooks, in sometimes you call it neoclassical economics, you can say the major question which is focused upon has to do with allocation of given use values, allocation des ressources scarces. And you assume that the way you study this is through rational choice, choix rational, etc. By homogeneous agents. What I'm proposing is needed when we study innovation and learning, innovation et apprentissage. Is to make a double change of focus. A double change, first moving from allocation of given resources towards creation of new use values. Because if we had a society where you had no innovation, how would it look? It would certainly not be very dynamic in any way. You would have definitely no economic growth, because you could get possibly a little more of some of the things you already had, etc. It would be a rather stagnant society. Innovation is the major driver of not only of economic change, not only of economic growth, but also of change and even the transformation of working life, as I showed you. And the other change of focus is moving from rational choice to agents which change themselves during the economic process. When people consume, when people work, when people transact, whatever they do in the economy, they learn and they become transformed in the process itself. So you need this double change of focus, and then you get what I call something like evolutionary economics. According to standard economics, the idea is that the economy is something separated from the rest of society. You don't take into account social relationships. What appears there is a special kind of individuals who you can call economic men, and their only concern is to maximize individual utility. Capitalism would never work with such people. The reason capitalism works much better than you would assume is that we have much, a lot of relationships in the system. This is the reason it works. And you can look at when social relationships break down. I would say Russia today is a good example where you introduce markets and you break down completely social relationship. Capitalism does not work. And I would say in general, when we focus upon learning and innovation, this separation needs to be given up to some degree. Here it's clear, becomes even more clear that social relationships are crucial for economic outcomes. And therefore, outcomes of interactive learning, like innovation, will necessarily reflect social relationships. The reason, the way I came to this conclusion had to do with, I started to think about product innovation. You know product innovation? You understand?
Innovation, produit, non?
Pas procès. Il y a des produits et des procès. Hein? Et quand on fait l'innovation produit, on le fait pour notre. Si on fait une innovation procès, c'est pour soi-même. Hein? C'est pour changer le procès dont on est. Mais si on le fait pour notre, c'est un peu un mystère, un paradoxe qu'on peut le faire parce qu'on ne connaît pas les besoins de l'autre. On a entendu, il y a des systèmes de marketing, d'essayer de comprendre les consommateurs sur des surveys, etc. Mais quand on vient à utilisateurs plus professionnels, qui sont des organisations, etc., et on a besoin de feedback. Si on développe les instruments pour des hôpitaux, il faut savoir ce que les docteurs a besoin de faire. Et donc, il faut développer. Il faut avoir une solution de ce paradoxe. Si on a un marché qui est tout à fait pur, où on a une longue distance entre le producteur et le consommateur, et on n'a pas d'échange d'informations, que information de prix et quantité, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Et donc pour mon travail, ça fait et je vais étudier ces choses théoriquement, empiriquement, etc. Et que la plupart des marchés ne sont pas des purs marchés. Ils ne sont pas des marchés purs. Ils sont des marchés organisés où il y a des relations long terme, souvent très long terme, entre groupes des producteurs et groupes des utilisateurs. Si vous avez étudié software development, open source software, etc., vous savez très bien que ces sortes de network, comment on l'appelle, hein, des réseaux et tout ça est très important, mais c'est beaucoup plus général que ça. Et ça veut dire dans ces relations où on a un marché organisé, on a des relations avec des dimensions de pouvoir, des relations de confiance, et on a aussi une communication assez complexe. Les gens se rencontrent face à face et on peut presque échanger connaissances tacites dans ce domaine. Et ça, j'ai développé cette idée et comme une fondation micro pour comprendre des systèmes d'innovation nationaux, systèmes d'innovation régionales, sectorielles, etc. Mais c'est une autre chose. Si on prend l'économie économique standard, on ne pourrait pas expliquer la fréquence et l'importance des notions de produits. Parce que là, on assume qu'on a des relations anonymes entre producteurs mais en effet, on peut documenter que une majorité des innovations sont des innovations de produits. Et ça veut dire il faut réviser les conclusions. Vous connaissez l'économie des transactions, non? Vous connaissez? Un peu, oui. Parce que là, si on prend la même question à l'économie des transactions, on va devenir à la conclusion que tous les marchés où on a souvent des innovations produits, on devait avoir une intégration verticale. Et donc, le marché va disparaître. Hein. On va avoir une hiérarchie face au marché. Et ça veut dire, on a aussi, on ne peut pas expliquer la fréquence d'innovation produit par économique transaction. On a fait beaucoup des études empiriques. On a, par exemple, fait des surveys avec des firmes qui développent des nouveaux produits. Et on a discuté, on a eu des questions. Est-ce que vous le faites vous-même ou est-ce que vous le faites en interaction, en communication avec autres organisations? Et on trouve, c'est très, très, comment dire, seldom. C'est très infréquent, très infréquent. Que les firmes développent une innovation produit eux-mêmes, sans interaction. Toutes les firmes qui développent des nouveaux produits le font en interaction avec d'autres organisations. C'est les utilisateurs, mais c'est aussi des institutions de connaissances comme l'université. C'est aussi supplier, fournisseur, c'est avec des fournisseurs, etc. On ne fait pas l'innovation seule. Et on trouve aussi beaucoup de relations sont très long terme. Il y a des clients préférés avec un, on a travaillé pour 5-10 années. Et on l'utilise comme partenaire quand on développe les nouveaux produits. On peut appliquer cette perspective, pas seulement entre firmes, mais aussi pour la relation entre industrie et l'université, par exemple. Je fais un peu de ce travail quand j'étais à Silicon Valley, à Stanford, l'université de Stanford. Et un des points que je fais, et qui est confirmé, que on a beaucoup de prix Nobel dans Silicon Valley en physique. Mais la question c'est, est-ce que Silicon Valley est devenu un succès énorme parce qu'on a beaucoup de prix Nobel? Ou est-ce qu'on a beaucoup de prix Nobel parce qu'on a utilisateurs qui sont les plus avancés du monde? Et je voudrais dire, il y a des deux. Il y a d'avoir des utilisateurs de recherche qui sont avancés est très important pour la recherche. Et on peut, si on l'organise correctement, on peut utiliser interaction avec des utilisateurs pour faire mieux recherche. Maintenant, le premier pas que j'ai fini maintenant, c'était de illustrer l'idée d'interaction pour innovation. C'était l'idée. Et j'ai pris le cas spécial des relations utilisateurs-producteurs d'innovation, mais on pourrait prendre autre forme d'interaction. On pourrait prendre, quand j'ai présenté les différentes formes de travail, le sort d'interaction qu'on a, on a entre le boss et le travailleur, est aussi très important pour l'implémentation des innovations. Mais je prie utilisateur, producteur comme le cas pour illustrer un point plus général. Maintenant, je vais dire un peu je dis qu'on a des éléments de connaissance qui sont plus ou moins distants. Plus ou moins distance entre différents types de connaissances. Et maintenant, je vais faire un autre exemple sur connaissances plus pratiques, plus basées dans l'expérience et connaissances qui sont basées sur la science, sur recherche. Et je vais essayer de vous démontrer que quand on combine les deux, on n'a plus d'innovation. Quand on a un, c'est bien. Quand on a l'autre, c'est aussi bien. Mais là, de innovation management, de gestion d'innovation, c'est de combiner les deux. Et je vais vous donner quelques résultats empiriques dans ce domaine. C'est aussi un travail que je fais avec Edward Lawrence. J'ai développé cette simpliste taxonomie de connaissances que je trouve assez utile. On peut regarder connaissances comme les données, hein, comme description du monde. On peut relater à causalité, know why, plus relaté à loi scientifique et relation nature-société. Mais aussi, j'inclus, et c'est très important, know how, comme part de connaissance. Et en effet, si on regarde le performance économique du système, le know-how est peut-être encore plus important. Parce que know-how, ici, c'est un concept assez vaste. Le sens scientifique, il a de know-how quand il vient dans le laboratoire. Il sait faire les choses. Et ça, il ne peut pas expliquer exactement comment, mais il a ses pratiques de faire interprétation des résultats de recherche, etc., qui sont une sorte de know-how qui est aussi basé sur expérience, plutôt que seulement lire les livres et tout ça. Vous comprenez? Et finalement, j'ai inclus know who, parce que quand on a une société qui est tellement compliquée en termes de connaissances et qui change très très vitement, c'est impossible pour individu comme organisation d'avoir toutes les connaissances qui est nécessaire. Il faut toujours être capable de connecter à l'autre. C'est vrai aussi pour IBM. Le plus grande organisation de connaissances du monde. Ils sont centaines d'alliances avec autres firmes, avec beaucoup de personnes, parce qu'il faut avoir accès à connaissance qu'on ne peut pas avoir in-house dans la maison. Vous comprenez? Une autre distinction que vous connaissez très bien, je suis sûr, c'est la distinction entre connaissance codifiée et connaissance tacite. C'est important de réaliser que know-how, pas seulement les trucs pratiques comme faire la bicyclette et nager, etc., mais aussi gestion et en recherche. Il y a toujours des éléments de connaissances tacites. Il y a toujours des éléments tacites de connaissances. Vous savez, il y a des essais de tout à fait codifier la connaissance des experts. Et il y a des experts en France actuelle et Bayle, qui a fait beaucoup de très intéressantes études quand on essaie de transformer la connaissance d'experts dans un système d'innovation, dans un software. Et ce qu'il peut démontrer, c'est le numéro un, c'est seulement certaines activités assez simples et statiques où on peut le faire. Et numéro deux, quand on le fait, on perd toujours quelque chose. On ne peut pas reproduire exactement les connaissances d'experts. Et ça veut dire qu'il y a toujours un élément tacite. On a fait un article ensemble, moi et Laurent, sur connaissances tacites et codifiées. Et après ça, on a commencé à penser, est-ce qu'on peut faire quelque chose de plus dynamique et inspiré par cette dualité, hein? Et on a développé, on a eu des informations sur 700 firmes danois, où on a des informations sur leur activité de recherche, des relations avec l'université, etc. Et on a aussi des informations de Learning Organization, organisation d'apprentissage, etc. Et on a développé l'idée, il y a deux modes d'apprentissage, un qui est caractérisé par science approach, formalisation, explicitation, codification, et un autre qui est basé sur expérience, qui a plus à faire with learning by doing, learning by using, and learning by interacting. And ça réfère à connaissance qui est basée sur expérience, et c'est toujours souvent implicite et peut-être embodied. Hein? Embodied en français, il y a un mot?
Incorporé.
Je normalement dis qu'il y a de connaissance qui est embrain en français. Le brain?
Le cerveau. On dit décervelet.
Embrain knowledge, c'est là. Mais embodied knowledge, c'est là. C'est là. Vous trouvez Magali? C'est là. Vous savez, c'est pas ici. Hein? C'est quelque chose que vous avez dans le corps. Hein? Et tu ne peux pas dire exactement pourquoi c'est ça. Encore, il y a des liens. C'est pédagogique, je peux regarder. Hein. Il est sceptique, hein, mais quand même. On a fait ça et on a utilisé des indicateurs pour le UI learning, c'est apprentissage expérimentier. On a pris des trucs qui ont à faire avec l'organisation de travail, interdisciplinary workgroups, quality circles, integration of functions, software development. Ils sont tous les caractéristiques qui a quelque chose à faire avec l'organisation qui apprend, hein? Learning organizations. Mais on a pour avoir l'interaction, on prend aussi le caractère de coopération avec client. Cooperation with client. Pour SDI mode, on a pris l'investissement en recherche et développement, coopération avec l'université, et aussi si on a des scientifiques dans le workforce. Hein. Et on a fait l'analyse et on a trouvé quatre clusters. Un qui où on a assez faible dans toutes les deux dimensions, on l'appelle low learning. Un où on est fort en termes de SDI learning, un où on est fort dans DUI learning, et un catégorie où on est fort dans tous les deux domaines. Hein. Et le odds ratio que vous pouvez voir, la seconde ligne, ça donne la probabilité de développer une innovation produit dans une période, je crois, de 3 années. Et on compare les quatre catégories avec et on prend comme benchmark de low learning. Ça veut dire on assume la probabilité là, c'est 1. Et ça veut dire les résultats démontrent. Et il faut savoir ce qu'on a fait avant, on a fait ça. Et on a introduit plusieurs autres facteurs pour expliquer. On a introduit le secteur, la taille de firme et aussi les formes d'ownership, comment le dire, le propriétaire, c'est une grande, c'est une part d'un grand groupe ou c'est une petite entreprise indépendante ou c'est une entreprise étrangère. On a introduit ces variables et ce qui reste ici maintenant, c'est ce que peut être expliqué par les quatre plus. Et on trouve que la probabilité, si on a un mode de STI, est double que si on a un low learning, et le même si on a une présence forte de mode DOI, c'est aussi double, mais si on combine les deux, ils sont plus que 5 fois plus innovants que de low learning. Et c'est seulement pour. Ok. Ah, je suis presque fini, je crois. Qu'est-ce qu'il y a? Ok. Maintenant, j'ai fait 3 choses. J'ai commencé par dire que ce qui est important, c'est l'interaction entre divers agents divers, hein, et qu'il faut faciliter cette interaction. Et après, j'ai illustré avec l'interaction par le cas spécial d'innovation de produits. Et après ça, j'ai essayé d'illustrer l'importance de diversité par démontrer que si on peut combiner les connaissances qui est basée d'expérience, qui est plus pratique, avec connaissances qui est basée sur science, on devient plus innovatrice. Hein. C'est ça que je fais. Hein. Et maintenant, je vais donner quelques idées un peu plus philosophiques, hein. un peu plus générales de situation du monde, hein. Et qu'est-ce qu'on peut faire en termes de quel rôle l'innovation peut jouer. Hein. Et pour commencer, je voudrais dire qu'on a besoin d'un nouveau agenda pour analyser croissance économique. Et normalement, c'est une tendance de focusser seulement sur production, capital de production capital de finance. Mais maintenant, il faut regarder aussi les conditions naturelles, parce que si j'ai travaillé en Chine et je peux regarder avec mes yeux comment l'environnement naturel devient un problème très très dramatique pour le système de production. Si les travailleurs ne peuvent pas avoir de l'air, hein, si on peut avoir de l'eau pure, hein, c'est pas, on peut pas, c'est pas bien d'avoir plus de 4 heures. Et là, c'est important de savoir que c'est assez facile de reproduire le capital de production. Mais c'est pas le cas pour ce que j'appelle capital naturel. Et l'exemple le plus clair est, comment on l'appelle, le CO2, comment on l'appelle, l'ozone, hein? On peut pas le réparer, hein? On peut pas le réparer, c'est une autre chose. Hein? Et après ça, j'ai dit qu'on prend aussi en conscience capital intellectuel. On investe en R&D, etc. Mais il y a là une relation entre ça et ce que j'appelle capital social et qui est un peu pareil. C'est très, très, c'est possible de reproduire capital intellectuel. Mais si on détruit vraiment le capital social. Et encore, je voudrais dire que la situation de Russie est dramatique, parce que là, on a très bonne science, on a eu beaucoup d'investissements physiquement, etc., mais le système social ne marche pas. Et c'est très, très dur et très difficile à reproduire et à recréer, un peu comme capital nature. Et je crois qu'il faut avoir une perspective comme ça pour le futur. Et je voudrais dire, j'ai écrit moins qu'une page. Vous connaissez Financial Times? Combien de vous avez lu Financial Times? Ok, il y en a. Il faut le lire maintenant, parce que peut-être je vais avoir un petit truc là. Hein. Et c'était sur un dream, a nightmare,
un cauchemar.
The heading is a cauchemar. Je suis sur Titanic, mais c'est une situation un peu différente, parce qu'on a déjà touché le premier iceberg, hein, et on a utilisé toutes les ressources pour réparer. Hein, mais il n'y a pas de capitaine, il a laissé le bateau, et on ne peut pas être en accord de réduire the speed.
Ah, la vitesse.
La vitesse. On ne peut pas, être en accord de réduire la vitesse, on ne peut pas être en accord de changer de course. Et on sait absolument, sûrement, qu'il y a plus d'icebergs. Entre tout. Et je dis, j'ai écrit aussi que le problème, il n'y avait pas d'orchestre harmonique qui peut jouer le dernier hymne. mais la seule chose qu'on peut faire dans ces bateaux, c'est lire ce qu'elle appelle Titanic Times, où il y a des articles très, très, très intelligents et très bien formulés sur pourquoi on va aller dans les icebergs très vite. Hein. On verra. Mais je crois que c'est là le plus important problème maintenant. Hein. Et c'est un problème où c'est très difficile d'être. Je suis optimiste, mais c'est un type de problème où c'est très difficile d'être optimiste parce qu'il faut trouver des solutions innovatrices et créatrices. Il y a un besoin de quoi j'appelle Global Governance Innovation. Il faut innover le système de gouvernance globale. C'est absolument nécessaire. Et ce qu'il faut faire, il y a une possibilité de faire un essai de revenir système national, mais ça ne peut pas marcher, ce n'est pas possible. Et si ce n'est pas possible, il faut établir un gouvernement transnational, il faut avoir aussi des efforts globaux en recherche et innovation pour développer une trajectoire technologique qui est soutenable. Il faut développer, je parlais de diversité, hein, et maintenant on a un problème encore plus grand. Il faut bridge, il faut...
Briser, casser.
Bridge.
Bridge.
Il faut faire des ponts entre culture de Chine, culture des États-Unis, culture d'Europe et tout ça. Hein. Il faut beaucoup mieux comprendre. Et il faut balancer, je crois, la protection et le sharing. Hein?
Le partage.
Et le partage de connaissances. Et encore, parce qu'il faut savoir que le rôle classique des systèmes nationaux, c'était d'avoir un certain welfare state qui peut partager un peu les coûts et les bénéfices, le bénéfice de changement. Et il faut établir quelque chose comme ça au niveau global. Et il faut donc exploiter diversité à un niveau global par réduction des distances et barrières. Ok, c'est tout. Merci.
Bien, merci pour cette extrêmement stimulante intervention. Nous avons un petit quart d'heure. C'est peu, mais profitons-en pour discuter. Je prends les questions. Alors, on essaie de commencer par les étudiants.
Je peux prendre les questions en français. Vous êtes tout à fait choqué, hein?
Alors, on peut dégrader la qualité des questions en accédant au public des enseignants-chercheurs.
eux aussi restent muets, alors sinon on peut carrément regarder tout en bas, les organisateurs peuvent poser des questions. Ça serait dommage, on arrive là. Ah, il y a un ex-organisateur, donc le professeur de logique est quand même biologiste et aussi philosophe.
Ça veut dire biologique, pas logique. Okay.
Oui, vous avez dit à un certain moment que vous n'étiez pas d'accord avec l'analyse assez critique qu'avait développée Bernard Stiegler. Ce que je ne comprends pas, c'est que votre conclusion, cette image que, pour ma part, je trouve très parlant, qu'on est sur Titanic, on ne sait pas où on va, etc. Donc, c'est que, comment est-ce que vous pouvez ne pas être critique que quand votre propre sentiment à la fin, c'est aussi alarmant. N'y a-t-il pas besoin de développer une critique un peu plus musclée, pas parce que je peux me promener, j'espère que vous comprenez que c'est un cas. Vous êtes beaucoup experts bureaucrates au CDE, ces études, tout le monde, et puis je suis optimiste. Mais non, mais ça va pas. Il faut être plus critique et avoir plus d'idées sur ce qu'il y a là.
Est-ce que je peux...
Oui, ça bien marche. Sûr, ça marche. Okay.
Je crois que le capitalisme est un système qui se développe dans une façon assez contradictoire. Et là, je voudrais dire que l'idée que l'innovation prolétarise généralement, c'est ça où je ne suis pas en accord. Parce que c'est l'intérêt des capitalistes d'engager plutôt les travailleurs. Les modèles taylorisme ne marchent pas en termes de pour être compétitif. Et ça veut dire c'est l'intérêt des gens qui sont responsables pour gestion, etc., de réorganiser le travail pour le faire, en effet, plus créatrice. C'est ça que je dis. Mais au niveau global, il y a des contradictions qui sont presque insolvables. Et je n'ai pas eu le temps de parler de crise financière, mais c'est tout à fait clair qu'on va répéter la crise qu'on a eue dans un format encore plus grave. Et donc, on n'a pas avoir des ressources pour faire quelque chose. Ça veut dire, c'est une image un peu plus compliquée. Ça veut dire, comme je vois innovation comme quelque chose qui est absolument nécessaire pour trouver des solutions. Aussi, des solutions de crise de la nature, de crise écologique. On ne peut pas trouver de solution là, mais ce n'est pas seulement des innovations de technologie, c'est aussi peut-être encore plus important, des innovations en termes de système institutionnel et comment dire, incentives,
des incitations.
Incitations et régulation et tout ça, où il faut avoir beaucoup d'innovation. Mais je crois que donner l'idée que l'innovation, presque par définition, prolétarise, je ne partage pas cette vue. C'est compréhension. Vous comprenez? Je n'ai pas tout à fait compris ce que vous avez dit sur l'os de Dieu, etc. Mais...
Je crois qu'il y a une mécompréhension à deux niveaux. Un, je ne crois pas que ce que Bernard Figler a dit, c'était que l'innovation était prolétarisante, à savoir décérébrée. Hein. Je pense qu'il a dit tout au contraire, que l'innovation n'était pas par nature bonne. Et que ce qui était décérébralisant, ce qui était prolétarisant, c'était non pas l'innovation, c'était la consumérisation. Et ce qu'il disait, c'est qu'une bonne partie de l'innovation contemporaine était orientée vers la consumérisation. Il me semble que c'était ça. Et il me semble que ce que dit John, c'est qu'il trouve que votre posture, si je puis me permettre, pourtant, alors qu'elle fait des constats d'une certaine forme de catastrophe dans laquelle on avance, catastrophe écologique et catastrophe financière, il semble que la nature des analyses que vous en faites n'est pas à la hauteur du catastrophisme, pourtant, que vous voyez advenir. Si je puis me permettre.
Hein, oui, oui.
Ok. Bon. D'autres questions? Oui.
Moi, je pose la question du rapport entre l'innovation et le progrès. On parlait toujours d'innovation.
On a beaucoup parlé d'innovation, mais on ne parle jamais de progrès. Je vois ça, la relation qu'il y a entre l'innovation et le progrès. Enfin, je me souviens des cours de terminale, mais c'est un peu lointain. Et je voudrais savoir. Le rapport qu'il y a, est-ce qu'on peut, quand on parle d'innovation, on parle aussi de progrès, c'est deux choses différentes, et pourquoi aussi c'est deux choses différentes, on ne parle jamais de progrès dans le cadre de cette conférence.
On n'ose plus.
Could you translate? Well,
he wonders the link of the differences between innovation and progress.
C'est une grande différence, hein, parce que vraiment, il y a beaucoup de procès d'innovation qui sont destructrices, hein, comme les innovations militaires, naturellement. Hein. Il y en a mais en même temps, ce que j'ai essayé de dire, c'est que on suit des trajectoires. Et s'il faut, qui ne sont pas soutenables. Et on ne peut pas, trouver des nouveaux trajectoire sans faire d'innovation assez radicale. Et donc, on peut dire que à un côté, il y a d'innovation qui sont des effets très problématiques et très destructrices. Mais à l'autre côté, il est presque impossible où c'est impossible de trouver des solutions aux plus grands problèmes sans des innovations radicaux. Vous comprenez? Et ça veut dire, je ne voudrais pas dire que l'innovation est toujours progrès. J'ai écrit, quand j'ai fait les trucs en producteur utilisateur, j'ai développé un concept, je ne sais pas si vous connaissez, mais ce que j'appelle innovation, unsatisfactory innovation. Innovation qui ne sont pas bien pour société, qui ne sont pas bien pour utilisateurs. Et j'ai essayé d'expliquer qui sont les combinaisons structurelles relation entre producteurs et utilisateurs qui produit cette sorte de d'innovation. So, donc, je... Vous comprenez?
Bah, levez de main simultanée, donc on prend d'abord et après on passera.
Moi, j'ai une question par rapport à la,
aux classes de travailleurs, dont on a vu une répartition géographique, et surtout par rapport au cas où un pays accueillerait une classe de travailleurs, une classe de travailleurs créatifs plus grosse. Est-ce que le pays est contraint pendant une génération de laisser de côté les travailleurs qui étaient dans la classe du taylorisme, ou est-ce qu'il faut humainement attendre plus la génération suivante pour adopter une nouvelle forme, une formation, et développer ensuite, plus tard, une société plus créative?
Non, mais on peut dire que si on va avoir une transformation qui donne pas trop des crises et problèmes pour les travailleurs, il faut investir énormément aux éducation en relation de marché de travail, etc. Et c'est tout à fait clair que les pays qui investissent le plus dans éducation, apprentissage et tout ça, là, on trouve moins des exclusions. C'est ce qui est problématique. C'est si on a à deux côtés, capitalistes et travailleurs, on est en décore qu'on est. Et on a une classe de travail, une classe d'ouvriers qui est tout à fait isolée dans les travaux tayloristes et personne ne veut investir pour changer la situation. On va avoir très, très sérieux problèmes. Je crois en Angleterre, on a eu une transformation qui était très, très problématique pour les travailleurs, les ouvriers industriels, manuels, spécialement masculins, parce qu'on n'a pas investi assez dans cette transformation.
So, what are for you the main important tools and process for this crazy recent is?
Tools.
Relationship is between people, different domain, and for example, you have internet, but also
okay.
clusters,
okay.
Okay. local clusters in city, okay. everything.
Okay. Non, mais je crois que le système d'éducation et l'organisation de marché de travail sont très très importants. Et il faut je crois il faut faciliter. En effet, je n'ai pas discuté, mais on trouve aussi que le système où on a de plus majorité de travail créatrice sont dans un pays avec ce qu'on appelle flexicurité. Vous connaissez?
Flexicurité.
Ça veut dire où on a assez beaucoup de mobilité entre des différentes professions, entre différentes firmes, etc. Mais on a aussi un système social où on donne une certaine garantie pour les travailleurs qui sont en chômage, ne pas perdre le standard de vie, etc. Cette combination fait plus facile pour travailleurs de participer en changement et pas être trop à trop peur de conséquences. Et ça veut dire c'est une autre chose. Mais je crois que vous avez demandé quelque chose, mais naturellement plus précis du internet et tout ça je crois que ça peut jouer un rôle important, mais pas en soi-même. Il faut préparer les gens, il faut donner des incitaments de se interagir avec personne avec un autre background. Un intéressant fait, c'est l'histoire où il y a des périodes, des grandes villes comme Vienne, où on a une période de, où les psychologiques, les psychologistes, psychologues, les économistes, les artistes, tout le monde se rencontre. Hein? Et on a un peu la même situation à San Francisco dans une période beaucoup plus tard. Et là, on peut voir que il y a, on crée beaucoup de nouvelles idées. Et ce n'est pas seulement des innovations techniques, hein, c'est beaucoup des innovations culturelles et dans différents domaines. Et si on pourrait répliquer dans le cyberspace, hein, cette sorte d'interaction qui va croiser des différentes cultures, des différentes professions, ça sera grave. Très bien.
Interculturality. And don't you think that to promote interculturality and to reduce distances, we have to reduce inequality, and more balanced division of wealth between countries. And so, innovation depends essentially on economy, so on capital and on money.
Naturellement, il y a une relation entre inégalité économique et la sorte d'interaction, mais c'est pas toute l'histoire. Hein. En Chine 3 années, j'ai interagi beaucoup avec des étudiants chinois. Et ils sont pas tellement différents que vous. Hein. Et ils sont en principe dans un autre niveau de. On a part de cette solution impossible, hein, globale, que j'ai, avec le Global Welfare State et tout ça. C'est aussi pour réduire accès, mais c'est aussi accès déséquilibré à connaissance. En effet, j'ai organisé, peut-être quelqu'un le savait, mais j'ai organisé un network global sur personnes qui travaillent sur l'innovation. Et on a eu, il s'appelle GlobalX. Vous connaissez Obelix? Mais GlobalX est fait avec ICS à la fin. Mais on a eu la dernière conférence, on a eu à Sénégal. Et là, il y avait le demi des participants sont venus d'Afrique pour discuter innovation et des trucs comme ça. Et je regarde partager connaissances. C'est aussi un procès et aussi faire des ressources globales, de donner accès à know-who, à champs de différentes parties, sont aussi très importants. Ce n'est pas seulement l'économie, ce n'est pas seulement le niveau de GMP ou quoi. Hein. C'est aussi Parce que maintenant, l'accès à connaissances, à recherche, etc., devient encore plus critique hein, pour le progrès. Okay.
Je me permets de poser une toute petite question, justement relative à la Chine et l'humilité. Je me demande, pour essayer de synthétiser un petit peu les deux interventions de ce matin, si véritablement on peut être confiant, nous en Europe, sur la force du capitalisme fondé sur l'apprentissage collectif, sur l'individuation collective, ou le capitalisme cognitif, comme certains de nos études peuvent s'exprimer. Donc un capitalisme de la cognition face à finalement un néo-communisme du marché. Si on croit ce que vous avez dit, hein, sur l'alternative, finalement l'innovation c'est l'apprentissage individuel ou c'est la trans-individuation collective, etc. Bon, ben, finalement, toute la peur, la crainte, la paranoïa qu'on a, ben, finalement, non, il suffit de se renouveler en tant que capitalisme fondé sur l'innovation permanente, l'apprentissage collectif, l'individuation, pour retrouver nos lauriers et ne pas avoir peur finalement de ces puissances montantes.
Si vous êtes intéressé, il y a un document maintenant sur le net qui est de la stratégie pour l'Europe. Il s'appelle EU 2020, parce qu'on a eu quelque chose qu'on appelle de Lisbonne Project. Mais maintenant, on a fait on essaie de faire une nouvelle stratégie chiffre pour les prochaines 10 années. Et on a invité des différentes personnes et organisations à commenter. C'est un document, c'est seulement 25 pages. Mais le deadline for comments, c'était vendredi. Et j'ai envoyé deux contributions. Je crois aussi que dans ces documents, il y a un vocabulaire où on utilise innovation tout le temps. Mais on n'explique pas ce qu'il est, et ça veut dire quand il vient implémenter les trucs, on perd perspective et on fait les trucs un peu comme capitalisme normal. Hein. Et c'est un problème parce que dans les systèmes de gouvernance, normalement, les plus powerful, le plus puissant sont normalement les ministres des Finances. Et c'est toujours les ministres de compétition et comme ça. Et il y a des ministres de recherche, de science, de connaissance, mais ils sont dans un niveau moins important. Et c'est aussi. Mais je voudrais dire que, comme je dis à la fin de mon discours, le capitalisme de connaissance n'est pas pratiqué quand on vient à gouvernance globale. Hein, parce que tout le monde sait que le système comme il marche maintenant ne peut marcher comme ça. Tout le monde, ça veut dire, c'est une connaissance que tout le monde peut partager. Hein. Do you know Leonard Cohen? Anybody? You are too young. Leonard Cohen? You do? He has a very nice song which is called Everybody Knows. Je crois que c'est prendre la situation parce que tout le monde sait. Tout le monde sait la situation, mais ça rien. Les conclusions pratiques ne peuvent pas être prises parce qu'il y a des intérêts tellement forts. Et ce n'est pas seulement le capitalisme, c'est aussi des intérêts nationaux capitalistes et aussi des intérêts chinois nationaux. Ça veut dire. Et je crois c'est ce que on m'a demandé en Norvège de travailler avec eux pour promouvoir l'innovation. Et je dis, maintenant, il faut concentrer sur l'innovation de gouvernance. Parce que ce n'est pas utile de promouvoir encore l'innovation technique au niveau national pour avoir plus de compétitivité au niveau national. Ce n'est pas une solution. Il faut développer un autre régime. Et c'est impossible, on ne peut pas le faire, mais il faut le faire. Ce n'est pas possible, mais il faut le faire.
Si, ça s'appelle l'Europe fédérale.
Et l'Europe est part de problème. Ce n'est pas la solution, c'est le problème. Il faut comprendre aussi au niveau européen, il faut contribuer à trouver une nouvelle gouvernance globale. C'est ça que me make most worried. Hein?